Bonjour! Bonjour, ma princesse!
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Sarah Connor.
Non. Je suis ton père.
Tu n'es qu'un jouet!
Oh mon Dieu! Ils ont tué Kenny!
Voilà ce qui se passe quand on veut niquer des gens jusqu'au trognon!
Arrêtez de penser qu'avoir un ennemi dans la vie est une malédiction.
Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle émission Ciné Primitif, émission dans laquelle on va parler cinéma et passer des bandes-son. Je suis toujours en compagnie de Dahu et Bobo, ça va les gars?
Salut tout le monde.
Bonsoir.
En forme?
Toujours.
En pleine forme.
Et nickel. Aujourd'hui on a un thème que t'as choisi, qui a été tiré au sort mais que tu as choisi, le thème moteur.
Excellent thème, exactement. On débute par 60 secondes chrono.
Eh ben vas-y.
Ça vous
c'est
va
parti, c'est ton ouais, thème, c'est toi qui commence.
60 secondes chrono.
Allez, c'est parti. 60 secondes chrono, sorti en 2000, réalisé par Dominique Senna, qui a fait Opération Espadon, Whiteout, avec une superbe distribution, Nicolas Cage ou Nicolas Coppola, neveu de Francis quand même, hein. Francis ouais, Ford, oui. Hein, on l'oublie pas.
Le talent en moi.
Il a joué dans, voilà, c'est Laura Luna, Living Las Vegas, où il est très très bon avec un Oscar, et par exemple aussi dans Lord of War. Avec une Angelina Jolie, qui reste quand même une des plus belles femmes au monde avec de nombreux talents. On a Robert Duvall, qui a joué dans Le Parrain, Apocalypse Now, Bullet, et surtout le Vinnie Jones, ancien footballeur professionnel, qui a notamment joué à Wimbledon. Qui a, oui, effectivement, oui, qui a joué au départ dans Arnaque, Crime et Botanique, puis dans Snatch. Voilà, et là on le voit toujours dans son rôle. Voilà, très 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 gros dur. Moi j'aime beaucoup. Bref. Sur le synopsis, on a le voleur de voiture, Kip Raines, et son équipe qui doivent dérober 50 véhicules pour le compte de Raymond Calitri, un gangster britannique basé à Long Beach. Après avoir volé une Porsche 996, Kip, le petit frère de Memphis Wayne, mène involontairement la police à l'entrepôt de son équipe. Les inspecteurs Castlebeck et Drakoff mettent alors à la fourrière toutes les voitures volées et ouvrent une enquête. Calitri fait alors kidnapper Kip et contacte Randall, son frère, surnommé Memphis, ancien voleur aujourd'hui repenti. Il menace de tuer si Memphis n'accepte pas sa proposition, voler 50 voitures en 72 heures. Memphis accepte et Kip est libéré, mais Raymond Calitri prévient que si les voitures ne sont pas livrées à temps, Kip sera tué. Memphis remonte alors son ancienne équipe. Chaque voiture est désignée par un nom de code, un prénom féminin. Memphis se réserve la dernière voiture, la Ford Mustang Shelby GT500 de 1967, alias Eleonore. Voilà.
Sacré synopsis.
Ouais, sacré synopsis, mais... Pff,
ah, c'est un voilà, film, on est vraiment dans les films d'action type fin années 90, début 2000.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et puis...
Avec des flics complètement débiles.
Oui, clairement. Après, bon, ah, le capitaine n'est pas si débile que ça.
Mais pourquoi il ne les cueille pas quand il livre les voitures?
Ah, il a choisi quelques voitures. Il a choisi quelques voitures, il ne savait pas où ça allait.
Ça ne marche pas.
Bref, voilà, ça ne marche pas.
Ah, ouais, je ne suis pas inspecteur, je ne peux pas dire. Après, la technique.
Chacun son métier.
La production est faite par Jerry Bruckheimer, un des plus grands producteurs américains. Ce film est un remake donc, de la Grande Casse, qui est un film américain réalisé par Henry Blythe Alicki, sorti en 1974. La petite référence à Bullitt aussi avec Steve McQueen, que tout le monde connaît, c'est une Ford GT Fastback. Alors que dans 60 secondes chrono, ce sont des répliques mais construites sur des modèles refectionnés. Voilà, c'est le petit détail, faut pas croire que c'est la même voiture. Voilà, les experts vous diront, ah, c'est pas la même voiture. Bref.
Si les experts nous écoutent.
Exactement. S'il y a des mécanos, des collectionneurs, voilà, on a fait la différence. Voilà. Et on a Robert Duvall qui joue dans Bullitt. Film, moi, qui me botte bien.
Toi, je te vois bien regarder ça quand t'es gamin.
Ouais,
et...
ouais. Alors,
je l'avais pas vu depuis 20 ans. Je m'attendais à pire. Ça, je l'ai maté un dimanche. Je pense que c'est un film de dimanche quand t'as pris une cuite le samedi.
Exactement.
Prenez une cuite avant de regarder ce film.
Exactement,
obligatoire.
Exactement. Et c'est déjà. C'est...
Pas obligé en VO. Je pense que pas grand monde l'a vu en VO.
C'est le genre de film, voilà, tu poses le cerveau, ça te fait du bien. C'est des bons films à regarder.
Après,
tranquille.
Ça reste du Nicolas Cage. Je t'aime pas Nicolas Cage, faut pas regarder ça.
Je suis pas fan de Nicolas Cage. Vraiment, je suis pas un grand fan. Mais là-dedans, au final, il a très peu de répliques. Il intervient peu. Voilà, il y a vraiment.
Ils sont rendus compte de son potentiel.
Non, mais voilà, il est assez discret dans ce film, mine de rien.
Mais les cascades, il en a réalisé beaucoup.
Oui. Je sais pas.
Angelina Jolie aussi,
je crois. C'est pas un manche. Non.
C'est vrai, je crois qu'on les voit pas à l'écran.
Non, mais voilà, après, on a des répliques comme Angelina Jolie qui dit j'ai découvert que tu dois travailler deux fois plus pour être honnête. Après, moi, c'est un film qui me tient à cœur parce que bon, j'ai mon père qui a été.
Cascadeur.
non, moniteur d'auto-école. À un moment donné,
on n'était pas loin.
J'allais appeler la police.
Qui avait une auto-école. Bref, il y a un moniteur à un moment donné qui dit : tu touchais plus à rien, non. Vous savez pas prendre les virages, les signaux c'est n'importe quoi, vous savez pas te maintenir la vitesse, vous n'avez pas les roues parallèles, vous conduisez comme un pied. Tiens, moi par exemple, je sais pas nager, et vous savez ce que je fais ? J'approche pas une seule fesse d'un plongeoir. Et ça véritablement, ouais, pas dans ces termes-là, mais ça je l'ai vécu. Je l'ai vécu où mon père m'emmenait au foot avec cette nana qui avait 150-200 heures de conduite, qui saurait jamais, qui n'allait jamais savoir conduire. Et ça me fait du bien, c'est des bons souvenirs.
Ouais, la bande-son est correcte.
La bande-son est pas mal, ouais.
La bande-son, elle est extraordinaire. Elle est très éclectique. On a du Method Man, du DMX, on a du Moby.
Oui, bien sûr. Mais après, on voit que c'est un réalisateur qui a fait beaucoup de clips. On rassure du morceau, pas de bande-son composée pour.
Oui, et, bien sûr.
Tous les passages en voiture sont très clippés.
Voilà, on est sur du blockbuster.
Par exemple, tu prends une musique toute seule, ça te fait un clip de voiture. Et...
Tout à fait, voilà. Mais on veut quand même faire de l'argent avec ce film. Jerry Bruckheimer, il rigole pas. Voilà,
je pense que ça a
produit
marché.
Un film.
Bah, ça n'a pas si marché que ça, parce que l'année d'après, il y a eu Fast and Furious que je déteste qui est sorti. Et du coup, qui a coupé l'air sous le pied d'une suite à ce film-là. Et...
Oui, c'est sûr. Après il est rentré dans ses sous. Hein.
Par contre, ouais, je trouve qu'il y a un défaut. C'est la scène de course-poursuite, on en avait parlé en off. C'est vraiment le truc où je trouve, dans tous les films un peu de ce style, le montage, c'est toutes les deux secondes, tu changes de plan et tout, pour montrer que ça va très vite.
Oh, même pas deux secondes. Hein. Ah ouais, une seconde.
Et tu clignes des yeux, c'est un autre plan et tout. Enfin, moi, ça me donne la nausée. En fait.
C'est très vite.
D'où tu vois le mec qui a fait des clips avant. Et...
Ouais. Pour en revenir à la BO, du coup, toi, tu as choisi une musique.
Lowrider, Nono. Lowrider de War.
Higher.
Et donc, Bobo, on vient de s'écouter
Lowrider de Wah.
Musique du film 60 secondes chrono. Et je te propose, enfin, je vous propose qu'on passe tout de suite au film suivant. Donc, le film, c'est Rush, film que j'ai choisi. Il est sorti en 2013 et réalisé par Ron Howard. Je suis pas un grand fan de la filmographie de Ron Howard.
Non, c'est clair. Donc, on a vu ça, tu n'as rien précisé.
Donc, oui, j'ai rien précisé, mais vous allez faire vos recherches vous-même. Voilà. En distribution, enfin au casting, on a Chris Hemsworth, Daniel Brühl, ça j'aime bien, j'aime bien, et Olivia Wilde, entre autres. Ce film raconte la rivalité entre James Hunt et Niki Lauda, concurrents pour les écuries McLaren et Ferrari dans les années 70. Issu de la haute bourgeoisie, Niki Lauda fait face au charismatique et beau gosse playboy anglais James Hunt. On va suivre un peu cette rivalité entre les deux pilotes depuis leur début, de leur première course, ils la font ensemble en Formule 3.
Alors après, on a James Hunt hein, qui est déjà dans le circuit depuis un moment. Et il y a le nouveau Niki Lauda qui arrive et qui est son concurrent. Alors qu'il n'avait pas de concurrent avant et voilà, il pensait partir sur la F1. Et Niki Lauda, lui, arrive à faire tout un tas de choses avec les banques et
acheter sa place dans le circuit.
Voilà, exactement. Ouais. Et surtout, il dit crotte à son père autrichien, hein, grosse fortune autrichienne. Ouais. Bon, on est dans les années 70. Son père, je pense qu'il a vécu dans les années quand même 20, 30, 40. Mais Niki Lauda fait sa propre carrière tout seul. Et ça, c'est beau.
Et la différence entre les deux, bah, comme j'ai dit, c'est qu'il y en a un qui est un peu un flambeur et tout, qui aime bien se faire aimer, se faire voir. Et l'autre, à l'inverse, est vraiment méthodique. Il travaille pour la Formule 1, c'est vraiment sa passion. Il a envie d'y arriver et voilà. Donc on va suivre toute leur rivalité sur la piste, en dehors. Pour la petite anecdote, en vrai, ils étaient rivaux. Mais dans le film, on a l'impression qu'ils ne peuvent pas se voir. Mais en vrai, ils étaient amis.
Oui, comme dans n'importe quel sport.
Voilà.
Tout à fait, oui.
Donc non, là, mais c'était un peu pour la tension dramatique du film aussi.
Les sportifs de haut niveau ont cette rivalité qui va les pousser à se surpasser dans différents domaines.
Sur de la course mécanique, je pense que c'est dans les premiers qui ont été médiatisés pour ça.
Ouais, exactement. Et c'est très important et c'est beau.
Du coup, on a des petites répliques sympas, puisque justement, Formule 1, à l'époque, surtout à l'époque, c'était très dangereux. Il y avait beaucoup de morts. Et donc James Hunt qui dit « Plus on frôle la mort, plus on se sent vivant. C'est une merveilleuse façon de vivre. C'est la seule de conduire. »
Comme quoi ils sont suicidaires.
Voilà, au fait, ils sont un peu suicidaires, c'est vrai.
Ah oui, non, mais c'était les pilotes de Formule 1 avant, c'était des grands malades. Hein. Après, vous le savez, hein, on a grandi à Muison-Gueux. N'oublions pas que Gueux était le premier circuit automobile de course automobile européen. Et le nombre de morts qu'il y a eu sur ces routes-là, sur ces premiers pilotes, c'était...
C'est pas le même modèle non plus de Formule 1.
Non, mais tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les pilotes, depuis la création de la voiture... C'est des mecs qui n'ont pas peur de la mort. Enfin voilà, c'est des trompes la mort depuis toujours. Après, aujourd'hui, la Formule 1 s'est passée à autre chose. Et tant mieux.
Il y a moins de morts, ouais, c'est mieux.
Mais
aussi,
les mecs ils sont pas super équipés, super protégés, et c'est très très bien.
Ouais. Mais pour en venir au film,
Niki Lauda qui était un peu connu pour avoir une tête de rat, enfin tout le monde l'appelait le rat. C'est pas très sympa d'ailleurs. Et il y a une réplique où James Hunt lui dit « Les rats seront toujours des rats ». Et Niki Lauda lui répond « Est-ce que tu crois que ça me vexe parce que tu me traites de rat ? Je ne suis pas vexé, les rats sont laids, c'est sûr. Et personne ne les aime, mais ils sont très intelligents et ils ont un fort instinct de survie. »
Et dans le film, ce qui est intéressant, vu que c'est un film historique, c'est qu'on voit beaucoup d'images d'archives. Les grands prix sont vrais sur les vrais circuits habituels, Nürburgring ou d'autres circuits. Et toutes les images d'archives qu'on voit sur les retours caméras des stands, c'est des vraies images d'archives, c'est pas l'image des acteurs. Ça donne un peu plus de cachet au film. Après, je pense que c'est romancé comme dans beaucoup de biopics, hein. Pas se mentir. Hein.
Bien sûr, ouais. Après, ça fait partie du jeu, mais je pense qu'ils sont véritablement proches de la réalité.
Le crash de Niki Lauda.
Le crash de Niki Lauda, c'est vrai.
C'est impressionnant.
Ouais. Donc, pour rappel, c'est lors d'un circuit où il ne voulait pas faire la course.
Courir.
Ouais, voilà, c'est ça. James Hunt a un peu poussé pour que la course soit maintenue. Et Niki Lauda donc se crash, la voiture prend feu, la F1 prend feu, et il finit brûlé.
C'est de longues minutes hein, quand même, je crois que c'est pas loin de 10 minutes.
Ouais,
hein,
ouais. Une minute à 400 degrés.
Alors qu'il est en tête, il loupe 6 semaines du championnat, et au bout de 6 semaines, il décide de retourner sur la piste contre toute attente, et là, il fait du Niki Lauda, quoi.
Ouais, voilà, on va peut-être pas en dire plus sur ce film. C'est vrai que si, ceux qui connaissent pas l'historique de la Formule 1 vont peut-être avoir des surprises.
Et Niki Oda qui est mort il y a quoi, 2 ans?
Il y a pas longtemps, ouais, 2019 je crois.
Ah ouais.
Ouais, alors que
donc
Jameson,
c'est pas le Covid.
Jameson, il est mort beaucoup plus jeune, en 1993, mais lui, vu que c'était un fêtard,
il a arrêté
fumeur,
sa carrière après le Grand Prix qu'il a gagné, je crois.
Ouais, alors ça, c'est dans le film, je suis pas sûr en vrai qu'il
est vraiment arrêté. Je sais pas s'il a trouvé une écurie ou pas.
Mais j'aime beaucoup, moi, ces deux profils complètement différents, qui ont tous les deux énormément de talent, mais il y a un bosseur, et un doué.
Ouais.
Voilà, un doué de base, mais qui bosse pas. Voilà, chacun trouve, le profil qui lui correspond pour s'identifier à tel ou tel personnage, mais...
C'est un peu ça, une belle rivalité entre les deux, en tout cas.
Après, Niki Lauda, ça reste le bosseur, le compétiteur, le mec qui fera tout pour gagner.
Il a quand même été 3 fois champion du monde de Formule 1, donc en 75, en 77 et en 84. Mm. Alors que James Hunt, il a été une seule fois en 76.
L'année où Niki Lauda a eu l'accident.
Et ben voilà, après tout ça, je vous propose de passer à la musique. Alors là, la bande originale de ce film est composée par Hans Zimmer, mais la musique que j'ai choisie, c'est pas du tout de Hans Zimmer. On la mettra en fond.
Oh, c'est dommage, parce qu'Hans Zimmer, il est fantastique.
Mais on la mettra en fond de l'émission.
Oh, ça, c'est magnifique. Ouais, c'est ça.
Et du coup, la musique que j'ai choisie, c'est The Spencer's David Group, Gimme Some Lovin'. Elle est sortie en 1966. Les gars, on vient de s'écouter Gimme Some Lovin', sorti en 1966 du groupe The Spencer David Group, pour le film Rush. Je vous propose qu'on enchaîne avec le film suivant.
Alors là, on va passer sur du lourd.
Ah ouais.
Là, on va passer sur Death Race 2000, la course à la mort de l'an 2000 pour les francophones. Alors, c'est un film réalisé dans les années 70, plus précisément en 1975, par Paul Bartel. Je ne sais pas du tout ce qu'il a fait d'autre. En revanche, le producteur Roger Corman a fait beaucoup de gros nanars comme Carnosaur, des films d'horreur à la con dans des lacs avec des dinosaures et toutes ces conneries.
Attaque de requins de l'espace.
Donc là, je contextualise déjà le truc, tu vois ça. Et le pire, c'est que ça vient d'un livre, apparemment. Du coup, dans ce film, dans un futur proche dystopique en l'an 2000, du moins dans les années 2000, une course automobile transcontinentale meurtrière est organisée chaque année. Les pilotes, y gagnent des points en écrasant des piétons et en éliminant des adversaires. Frankenstein, le héros du peuple, le favori du gouvernement et la star des courses, se trouve impliqué dans une conspiration visant à saboter la piste. On est dans une sorte de peplum, on va dire. Du pain, de l'argent et des jeux pour le peuple. Et ce film est clairement un film comique. Hein. C'est une série B américaine avec des punchlines à la con. Et surtout des moments cultes comme la journée nationale de l'euthanasie ou...
Mais moi je reviendrai sur le peplum là dont tu disais. Ouais. À un moment donné, il y en a un et un concurrent, il s'appelle Néron quand même.
Il y a Néron et Cléopâtre dans leur voiture.
Néron, c'est pas n'importe qui dans l'Empire romain quand même.
Il y a aussi une voiture nazie, il y a aussi une voiture.
Il y en a pour tous les peuples.
Il y en a pour tous les peuples.
Les peuples.
Bon, je vous encourage à aller voir un petit peu la biographie de Néron quand même.
Et je vous encourage à voir le film un dimanche, pareil. Que...
Si je peux me permettre juste un petit truc, moi je l'ai regardé et je suis déçu de l'avoir regardé au final au calme chez moi. J'aurais préféré le regarder au final sorti de chouille avec des copains.
C'est comme ça qu'on l'a regardé.
Je pense que c'est comme ça qu'il faut le regarder. Moi je l'ai pas regardé dans les bonnes conditions, ça allait pas.
Mais mine de rien, dans ce film il y a beaucoup de voitures, hein. Beaucoup de voitures et tout, alors qu'on pourrait s'attendre à un nanar où au final on va avoir deux courses de voitures.
C'est quand même un nanar.
C'est un nanar, mais...
Ouais, c'est un grand nanar.
C'est un comique, du moins c'est un nanar comique, c'est pas un film qui se veut sérieux. Mais il y a des passages sympas comme Frankenstein, le héros du peuple. Il a eu perdu un bras, une jambe, un œil. En final, c'est toujours des Frankenstein différents, c'est juste pour divertir le peuple.
Non mais c'est redondant. Ouais. Ça sert carrément à... En 94, j'ai perdu mon dos. En 95, j'ai perdu ma jambe.
C'est pour l'absurdité du truc.
Ouais, non, mais c'est tout le long du film.
Bah bien sûr.
Oh bah si t'apprécies pas les bonnes choses.
Il appréciait les masseuses.
Par contre effectivement il y a de jolies filles quand même.
Ouais, ça m'a fait penser un peu toutes les voitures, les courses comme ça, dessins animés, les fous du volant.
C'est post les fous du volant, c'est 68 dans ces années là, donc c'est genre 6 ans
après. Plus trash, quoi.
Bah, faut qu'il tue les gens. En tout cas ce film inspire le jeu vidéo Carmageddon, jeu culte des années 90 où on fait la course, tue les gens et celui qui a le plus de points gagne la course.
La belle époque.
C'était du fun et... J'avais envie de présenter ce film-là pour les gens qui ne connaissaient pas l'histoire de Carmageddon et aussi le premier film de Stallone, autre d'un film érotique, avant Merde.
Rocky,
merci. Et pareil pour David Carradine, je pense que c'est son premier film aussi.
Oui, tout à fait, il était sur la série
Kung Fu. C'est improbable ce film.
Ça a lancé leur carrière en fait.
Ouais. Bon, peut-être pas. Mais...
David Carradine, il n'a pas fait de carrière véritablement. Sa carrière, ça s'est cantonné à la série Kung Fu.
Oui, Kill Bill aussi,
sur
la fin. Et sinon, il y a eu un remake avec Jason Statham que j'ai pas réussi à regarder entier.
En même temps, réalisé par Paul Anderson.
Oui.
Oh mon dieu.
Il a fait un film correct.
Ah bon, lequel?
Event Horizon. Sinon, tu vois, c'est que de la merde.
Oui.
Ouais, Death Race 2000, bon, c'est 1h10 de nanar et de course auto où il y a des gens qui se font écraser.
Avec un Stallone machiste sorti du gangster de Chicago.
Niveau machisme, il en est quand même pas mal à...
Ouais, parce qu'il y a une belle réplique quand même. Hein. Ferme ta gueule ou je t'en mets une, toi.
Il lui met quand même.
Il parle à sa femme quand même, hein, qui est son copilote.
Je vous conseille de voir ce film, franchement.
C'est improbable en fait, ça se voit une fois par contre.
Oui, c'est avoir une fois.
Moi je l'ai vu plus de fois forcément.
Ça va changer votre vision du cinéma.
Mais vraiment, vous rentrez d'une soirée, vous savez pas quoi faire, vous avez pas envie de dormir, vous regardez ça.
Ah, c'est très 70, hein. Il y a des cornues, il y a des belles femmes, des beaux hommes, des belles voitures des années 70.
Exactement, de 12 à 75 ans, ça peut vous faire plaisir à 4h du matin.
Un bon fond d'histoire. Voilà, donc forcément, la musique qui va passer est pas forcément folle, hein, parce qu'ils n'avaient pas un gros compositeur, donc j'ai choisi ce film pas pour la musique.
Alors la musique pour ce film, c'est End Credits Lulu's Rag.
Merci.
C'est ça?
C'est ça, c'est la musique du générique.
Ok, musique du générique, on se l'écoute tout de suite et on revient.
On se retrouve dans Ciné Primitif. On vient de s'écouter...
La musique du générique de Death Race 2000.
C'était pas mal, hein.
Ah, c'était... C'était particulier.
Moi, ça m'a fait mal à mon cinéma.
Oh.
Non, bah du coup, je te propose qu'on se rattrape avec un bon film. Un film qui s'appelle Christine.
Attends, laisse-moi deviner.
Vas-y, dis-moi.
Le réalisateur, c'est pas John Carpenter?
Ouais, c'est vrai qu'on en parle beaucoup ici. Hein.
Non, pas trop, non. Apparemment, chaque émission, il y a John Carpenter de manière.
Oui, bah, excuse-moi, c'est un génie, donc il mérite. Au casting, on retrouve des acteurs pas très connus, je sais pas si vous les connaissez. Kev Gordon, John Stockwell et Alexandra Paul.
Non.
Inconnu au bataillon. Ah. Alors, ce film, c'est une adaptation, du roman de Stephen King qui porte le même nom. Pour le petit résumé du film, en 1978, Arnie Cunningham, adolescent qui n'a pas confiance en lui et qui est un peu la victime de ses camarades, va tomber sous le charme d'une voiture, une Plymouth Fury. Elle est en piteux état et il décide quand même de l'acheter. Donc la voiture s'appelle Christine et donc ça va donner le nom au film. À partir de là, Arnie va commencer à changer de personnalité. Il va dans un premier temps prendre confiance en lui au point de réussir à sortir avec Leigh, la fille la plus jolie du lycée. Et de plus en plus, Arnie va devenir arrogant, ses proches ne vont plus le reconnaître. Il passe tout son temps à réparer sa voiture et à prendre soin d'elle. Mais il faut savoir que Christine, donc la voiture, a une vie propre et des pouvoirs surnaturels. Et elle est très jalouse de Leigh. Cette voiture meurtrière qui a déjà tué par le passé va vouloir se venger quand des jeunes voyous vont la vandaliser. À partir de ce moment-là, elle va les chasser, se mettre à leur trousse pour les tuer un par un. Donc un film, je pense que seul John Carpenter pouvait réaliser un film sur une voiture tueuse.
Moi ça m'a impressionné, parce que je l'avais, comme je l'ai déjà dit, j'avais vu un débrief. Et là, l'avoir vu en entier... C'est impressionnant comment il arrive à te faire peur, d'une voiture.
On est vraiment dans un John Carpenter, à te faire un slasher avec une voiture.
Ah ouais, c'est extraordinaire.
Et il n'y a aucun moment, je trouve, où c'est ridicule. Il n'y a pas de... Enfin, ça a bien vieilli.
Et puis c'est un bon film d'horreur qui te fait avoir peur de la voiture.
Ouais. Pourtant, c'est le film qui déteste le plus, John Carpenter.
Ah ouais, ouais. Ok, je savais pas ça.
C'est un film de commande, en fait. Stephen King avait sorti son film, son livre, je crois, la même année ou l'année d'avant.
Il a, au fait, justement, le livre est sorti 7 mois plus tard.
Ah oui, d'accord. Parce que, du
le
coup,
film a été réalisé avant la sortie.
C'est
du
ça.
Livre.
Ils ont, en fait, ils ont surfé sur le succès de Stephen King et le succès naissant de John Carpenter pour.
Ok.
Bon, pour faire un film qui est censé marcher et qui a marché. Hein,
bon, au final, c'est bien. Plutôt réussi, moi, je trouve. Après, il y a des bons petits effets spéciaux aussi, comme par exemple la scène où la voiture se régénère, enfin, elle se répare toute seule.
Ça c'est vrai que je me suis demandé. Alors, on va parler au technicien quand même qui est à côté de nous.
Docteur Dahu.
Docteur Dahu.
De quoi ?
Qui, comment il fait ça ? Sur la reconstruction de la voiture.
C'est des plans serrés, hein, on la voit pas de loin, donc c'est que des bouts de mécanique qui se détoient. Mais c'est
non, mais c'est surtout qu'au fait, c'est filmé à l'envers.
Oui, bien sûr, ça se reconstruit en fait.
Ils ont inversé la scène, au fait, la voiture est en train de se détruire avec des pompes hydrauliques.
C'est ça.
Et tout simplement, ils passent la scène à l'envers. Et
sur le même principe qu'El Riser avec la reconstitution.
Mais c'est bien foutu.
C'est une très bonne explication technique.
C'est bien. Du moins, la réalisation est quand même vraiment correcte pour un John Carpenter qui était pas forcément enthousiaste à faire le film. Je trouve ça.
Il avait peut-être plus de budget. C'est vrai que j'ai pas le budget, mais. Et du coup, petite réplique. C'est son meilleur ami du coup qui l'accompagne et qui s'inquiète un peu pour lui parce que Arnie passe tout son temps avec sa voiture plutôt qu'avec sa petite amie. Et ils ont une scène où ils discutent dans la voiture et Arnie lui dit « Quand tu es sûr que quelqu'un croit en toi, tu peux tout faire, tu peux faire tout ce dont tu as envie. Et si en plus tu crois en l'autre, alors attention, le monde, personne ne pourra jamais t'arrêter. » Son ami lui demande « C'est ce que tu prouves pour Leigh ?» Il lui répond « Quoi ? Bien sûr que non, je te parle de Christine, imbécile. Aucun connard ne viendra se mettre entre moi et Christine. Donc ça montre la folie, l'attachement qu'il a pour cette voiture, comme beaucoup de mecs peut-être.
Ouais, alors moi j'aimerais intervenir sur ce film très rapidement, mais moi je conseille à tous les parents laisser vos enfants faire leur propre choix. Sinon, gare à vous. Ils seront capables d'acheter une voiture qui est possédée par le diable. Ouais. Et là, c'est fini pour vous.
D'ailleurs, je réagis là-dessus. Est-ce que tu dis que la voiture est possédée sur le diable ? Mais ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'on ne sait pas si elle est possédée. On ne sait pas pourquoi elle a sa propre vie.
Dès le début.
Oui, non, mais je veux dire, c'est pas un truc où t'as une explication, genre une maison enterrée, enfin, construite...
Comme dans beaucoup de films de John Carpenter, en fait. Tu prends l'instant présent et t'arrives...
T'as pas besoin d'avoir des explications, genre...
T'as pas d'explication. On te dit, cette voiture-là, elle est sur la chaîne de montage. Il y a que des voitures blanches. C'est la seule rouge.
C'est l'intro du film.
C'est la seule rouge et c'est une voiture possédée par le diable.
Ouais. Et voilà, il y a pas besoin d'explication, c'est pas le film qui a
se construit. Chucky, on va dire, ah, on a fait du vaudou, on l'a mis dans la poupée.
Oui, c'est ça. Le sang d'un meurtrier a coulé dans poupée.
C'est une voiture possédée par le diable.
Voilà, vous en saurez pas plus. C'est une voiture qui tue des gens et puis c'est tout. Vous posez pas de questions en fait.
Il y a eu des suites. Hein.
Ah ouais, ah,
j'ai pas réalisé par John Carpenter, je pensais de la merde, je l'ai pas vu non plus, mais je crois qu'il y en a eu 3 des Christine.
Hâte de découvrir ça.
Le tournage a été quand même assez dangereux parce que la scène par exemple où elle est en feu, la voiture et tout, le pilote voyait absolument rien quoi.
Ah mais surtout qu'en plus
il a 2 doigts de rouler sur le mec à plusieurs moments.
Surtout qu'en plus ils avaient mis des la peinture sur les vitres pour justement qu'on voit pas déjà le cascadeur. Ouais, et en plus ça ajoute une tension dramatique à se demander aussi si Arnie qui est dans la voiture qui conduit seule. Et du coup pour passer à la bande son d'ailleurs parce que la voiture aime bien passer avant de s'attaquer aux gens des musiques des années 50.
Les seules musiques diégétiques du film sont celles à la radio qui sont réalisées, du moins qui sont composées par des vrais artistes, même si John Carpenter est un vrai artiste aussi, et toutes les autres musiques d'ambiance sont celles de John Carpenter.
Ouais, c'est ça.
Avec de la guitare, du piano et ses instruments habituels.
Avec Alan Howard.
Quel artiste ce John Carpenter. Ouais.
Et du coup les musiques que la voiture passe, j'ai découvert ça en fait tout à l'heure en faisant des petites recherches encore sur les anecdotes. Vu que je suis pas bilingue, je n'avais pas saisi ce sens là mais à chaque fois que quelqu'un s'approche de la voiture ou que la voiture veut rentrer en conflit avec, tous les moments musicaux au fait sont choisis exprès pour parler, pour communiquer avec la personne. Donc c'est à dire à un moment il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte de la voiture et la musique, je n'ai plus le nom, mais en gros ça veut dire ne toque pas, je ne t'ouvrirai pas.
Le diable communique.
Voilà, le diable communique
avec une voiture
au travers de la radio.
Bon, après tout ça, je vous propose du coup de passer la musique que j'ai choisie. La musique s'appelle Bonnie Moroni de Larry Williams, sortie en 1957. Une petite musique du film Christine, que la voiture aime bien apparemment. Tree. Et du coup, c'était une musique du film Christine Bonnie Moroni de Larry Williams, sorti en 1957. On passe au film suivant.
Bobo. Oui, alors c'est 100 000 dollars au soleil, et je suis fier, je ne le cache pas, de présenter dans cette émission le premier film français. Merci messieurs. Je passe à la suite.
Et heureux.
Sorti en 1964, c'est l'adaptation de « Nous n'irons pas au Nigeria », un roman de Claude Veillot paru en 62. Réalisé par Henri Verneuil, le clan des Siciliens, peur sur la ville, les Morfalous. Une distribution magnifique. Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Bernard Blier et Gerd Fraube, qui joue le méchant dans Goldfinger. Synopsis, aux portes du désert, Castigliano dirige une entreprise de transport routier. Hans doit conduire un chargement clandestin de 100 000 dollars au cœur de l'Afrique. L'apprenant Rocco élimine le chauffeur, vole son véhicule et part avec sa complice. Castigliano promet alors une forte récompense à Marek, dit le plouc, s'il récupère le camion. Commence une folle poursuite frénétique en camion. Film qui me tient à cœur. Voilà, moi, 7-8 ans, je me suis retrouvé sur les genoux de mon père, tenant un camion de formation dans les mains. Voilà, une course de camion. Ce film-là, ça me parle. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai regardé étant jeune. Voilà. Il y a des répliques qui sont formidables. Ce sont des dialogues écrits par Audiard.
Hein, quand même. Michel.
Oui, Michel.
Appelle-le par son prénom quand même.
Non, c'est pas Jacques Audiard. C'est le père de Jacques Audiard.
D'accord.
Voilà. Une réplique, et celle-là, véritablement, elle est fantastique. D'ailleurs, je pense écrire une petite chanson là-dessus, quand même, sur le rapport de force. Tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 les écoutent.
Ouais, donc tu ferais mieux de nous écouter d'ailleurs.
Je pense pas qu'autour de cette table, il y ait quelqu'un de moins de 100 kilos déjà. Il y a 3 chauffeurs routiers autour de cette table, je vous le dis moi. Où est-ce que tu as appris que l'argent faisait le bonheur ? T'as été élevé chez les laïcs. Voilà, dans la vie, on partage toujours la merde, jamais le pognon. Ça, c'est pas mal. Il y en a une qui me fait beaucoup rire, que Belmondo dit à un moment donné. Qu'est-ce que tu vas faire avec 100 000 dollars ? Il dit, je vais m'acheter une maison, etc. Et puis, je vais mettre des canards. C'est con, les canards, mais ça fait cossu. Enfin, voilà, il y a un tas de répliques qui sont formidables.
De toute façon, t'as du Lino Ventura, Belmondo,
Bernard Blier.
T'en doutes que c'est pas pour faire un cinéma muet, quoi.
Voilà, et il y a cette course-poursuite entre Lino Ventura qui court après Belmondo et Bernard Blier qui conduit tranquille, qui attend et qui vient à chaque fois secourir Ventura, le plouc. Après, faut pas oublier, même s'il y a une grosse rivalité, comme un peu dans Rush, voilà, grosse rivalité, ça reste au final trois copains. Ouais, voilà, trois amis qui, au début du film, boivent des coups ensemble et sont extrêmement solidaires. Mais par contre, voilà, dès qu'il y a une opportunité d'argent, ils filent sur l'opportunité d'argent. Et je vous laisserai découvrir la fin, c'est vraiment beau. Avec une scène finale extraordinaire. Alors, de bagarre.
À la bagarre, moi j'ai adoré, hein, franchement.
Los Angeles, ça va bien se tenir.
Oui, c'est ça, franchement, qui se bat comme ça ?
Non mais cette belle bagarre entre ces deux protagonistes dans une cour déserte et ensoleillée, avec juste le bruit des fontaines et les points donnés. Un film d'aventure divertissant, avec une très belle musique de Georges Delerue et dialogue bien enlevé de Michel Audiard. Enfin, pour moi, c'est un film merveilleux.
Je sais pas combien il a coûté, mais t'as quand même un sacré budget. Hein. Tu vois que...
Pour l'époque, c'est propre.
Très, très propre, la photo est belle, la réalisation.
Parce qu'ils ont doublé les camions déjà. Si tu veux, il y avait les camions qui étaient au Maghreb, en Afrique du Nord.
C'est au Maroc, je viens de vérifier, voilà. C'est bien au Maroc.
Donc dans de l'autre côté de la Méditerranée, dans le sud de la France. pour tourner le film un peu plus confort, parce que l'oublions pas, on est en 64.
C'est ça, le film est censé se passer en Algérie.
Deux ans après, quand même, la guerre d'Algérie.
Je pense que pour tourner en Algérie, c'était compliqué.
Voilà, c'est un film qui a inspiré du Salaire de la peur de Clouseau de 1953. Vous savez, où ils sont en camion et puis ils transportent de la nitroglycérine. On notera une étude quand même juste et humble du monde du travail ouvrier en terre décolonisée d'Afrique du Nord.
Complètement. Ça, c'est...
Voilà, il n'y a pas cet esprit
colonialiste.
Colonialiste. Enfin, c'est une image, je dirais, dans le temps historique.
Ouais, je suis d'accord. En plus, c'est un film, honnêtement, j'aurais peut-être pas regardé si tu ne l'avais pas proposé.
Très peu connu de nos générations.
Sur le papier, ça. Ouais, voilà. Sur le papier, ça me plaisait pas forcément, mais au final, c'est une bonne surprise.
Voilà, c'est fait, effectivement, tout le monde connaît les Tontons Flingueurs, tout le monde a vu les Tontons Flingueurs, mais celui-ci, je pense qu'il est pas...
Il
n'est pas à rougir des Tontons Flingueurs, vraiment. Juste une dernière anecdote, après je vous laisse. Le soir après le tournage, les comédiens se retrouvaient pour dîner et jouer aux cartes. Les repas étaient placés sous le signe de la convivialité, mais au cours de ces parties, le ton changeait. Les joueurs avaient pris l'habitude de s'insulter avec la dernière des grossièretés tout en gardant un calme olympien. Bernard Blier excellait dans cette étrange discipline. Une fois la partie achevée, les acteurs redevenaient les meilleurs amis du monde. Donc c'est vraiment des acteurs qui jouent des amis dans le film, mais qui sont véritablement des amis en dehors du film.
Ah pas dans le film, comme il l'explique à la fin, ils sont amis, mais comment ? À part se retrouver et boire un verre, ils ont jamais rien partagé ensemble à part conduire.
En fait, ils partagent la merde. Ils partagent la difficulté.
Oui, oui. Effectivement, et comment l'innovant, tu vois, le résume à la fin.
Voilà, et dès qu'il y a l'opportunité...
C'est pour ça qu'ils n'ont pas peur de se battre pour de l'argent, quoi.
Mais voilà, pour finir, donc une musique de Georges Delerue, qui a fait la musique de Jumeaux.
Ouais.
Ouais, et de Platoon aussi.
Platoon, ouais, après c'est...
Voilà.
Hein. Il n'est pas composé, il a sélectionné les musiques.
Et il a fait énormément de musique aussi, de films français. Ouais. Voilà, 100 000 $ au soleil, un film qui m'est cher. Et qui m'a à chaque fois me réchoupit.
Arrête de pleurer.
Mais j'aime beaucoup ce film. Je voulais vous le présenter. Et c'est le premier film français à avoir été présenté dans Ciné Primitif. Merci.
Ouais, hâte de présenter un film kazakh.
Allez, on se lance la musique. Georges Delerue, c'est ça. Musique de 100 000 $ au soleil. Musique de Georges Delerue dans le film 100 000 $ au soleil, ton film Bobo.
Et on passe déjà au dernier film.
Mad Max Fury Road, réalisé par George Miller. Donc là, on est sur du très lourd. Donc la distribution, Tom Hardy, bon, rien à dire.
Non.
Propre. Charleston, pareil. Nicholas Hoult commence à faire son petit bonhomme de chemin. Après, Immortal Joe, il joue dans le premier Mad Max. C'est pas le même personnage, mais... j'avais envie de le nommer, puis après pour le reste, il y a pas mal d'autres acteurs. Enfin bref, le casting est pas dégueulasse. Il y a Zoé Kravitz, il y a Emilia Clarke, t'en as d'autres.
Après, voilà, tu restes sur Tom Hardy et Charlize Theron qui font le déjà, taf de...
C'est ça.
Ouais, bon, je vais résumer vite fait le film et puis après on va en parler. Donc, ce Mad Max se déroule dans un désert post-apocalyptique. Max, un solitaire hanté par son passé, croise la route d'Imperator Furiosa. Cette dernière a trahi Immortal Joe, un tyran cruel qui contrôle la citadelle assoiffée. Ensemble, ils embarquent dans une course-poursuite explosive pour libérer un groupe d'esclaves et fuir sur une terre promise. En gros, on est sur 2h15 à peu près de film de course-poursuite.
C'est ça. Bon,
il y a à peu près 2 minutes où il n'y a pas de course-poursuite au début.
Ouais, Et puis c'est un film qui est façonné en 3 scènes.
Ah bah c'est ça, complètement.
Il y a 3 scènes de film.
Ouais. C'est la passe de... Bah, de toute façon, on commence direct. Max se fait capturer. Donc on part sur un Mad Max où il conduit 2 secondes. Capture. Ce film a quand même été récompensé par 6 Oscars, donc je peux pas négliger la qualité. Pourtant, c'est un film australien d'auteur, réalisé, produit et scénarisé par la même personne qui a fait tous les autres Mad Max réalisé, produit et scénarisé. Et le dernier qui est sorti il y a un an et demi, je sais plus, Furiosa. Donc dans celui-là, ce qui change principalement, c'est que Mad Max, en fait, il n'est pas le principal protagoniste, en fait. Il subit ce que Furiosa va lui amener avec son apparateur, son camion citerne, et va se faire poursuivre par une horde de
fous
furieux, avec des voitures custom, etc.
La mécanique, il faut quand même préciser que la mécanique et les mécanos qui ont bossé sur le film sont fantastiques.
Des cascadeurs, à ne pas oublier. On est sur un film avec du CGI.
Il n'y a pas une mort
CGI, il n'y en a pas des masses. Non, les effets spéciaux, il n'y a pas une mort, non. Non, les cascades sont bien...
Ouais, la vache, c'est impressionnant.
Dans le dernier, encore plus. Mais dans celui-là, c'est costaud. On a vraiment des belles cascades, des beaux décors. On est vraiment sur un film pas mûr. On ressent l'instant, en fait. Il n'y a presque aucun dialogue. On est sur une course-poursuite. Dès que ça baisse en rythme, ça pour mieux repartir 30 secondes après.
Déjà, quand on aime Mad Max, voilà la première trilogie. Et là, il est revenu combien d'années après?
20 ans au moins, je pense. Même plus 30.
Ouais, hein, plus 30. 30 ans après. Ouais. Et le mec, il révolutionne le genre.
Oh, complètement.
Mais bah oui, parce que ça change complètement du Mel Gibson qu'on avait. Donc, dans le 1, c'était.
C'était les prémices vraiment. C'était avant la guerre avant la guerre nucléaire.
D'ailleurs,
juste après. Oui,
c'est ça, ouais. D'ailleurs, le 1, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à voir avec le reste de la franchise finalement.
Ça explique la psychologie de Max.
Ouais, voilà.
Mais sachant que Max, c'est un peu n'importe qui. C'est le garé de la route, quoi.
Ouais, c'est ça. Mec, il cherche à survivre par tous les moyens. Et il a une voiture quand même de course avec un moteur qui sort du capot, un V8 là, monstrueux.
Là, on est dans le thème.
Ouais, non, mais la voiture, elle est magique. La voiture est magique.
Ça commence, le nom du film, c'est du moteur. Pas de
non, mais voilà.
ça ronronne le cinéma, là. Tu vas voir, t'en prends pas les oreilles.
Dans Fury Road,
dans
Furiosa.
La première image, je crois qu'elle est sur le moteur qui sort du capot.
De Mad Max,
avec les pistons.
Ouais, non, c'est fou.
Ah, et puis il y a tout un lore qui est beaucoup plus développé que dans les anciens, en fait, avec la citadelle de l'eau et tout, qui apporte vraiment sa pierre à l'édifice, je pense, de son univers qu'il a créé lui-même.
Ouais, du coup, le réalisateur, tu rappelles, c'est...
George Miller,
qui a fait aussi Beb, le cochon.
Bien sûr, qui est un bon film.
Ouais, mais c'est vrai qu'il a fait Beb et Mad Max.
Tu m'excuseras, je m'arrêterai à Mad Max.
Ah, bah, en tout cas, on peut pas... Franchement... Je connais pas grand monde qui a pas aimé ce film, hein, si t'aimes
après c'est pas un style qui va à tout le monde non plus.
Non bien sûr.
Explosion.
Si tu vas le voir, c'est que tu t'attends un peu à ça.
Ah oui, par contre si tu vas le voir au cinéma,
oui. Oui, je pars du principe qu'on va voir des trucs qu'on a un peu envie d'aller voir. Hein.
Oui, bien sûr.
Sauf ici, on est obligé de
mater les films des autres.
Si tu vas aller voir un film d'auteur russe, c'est pas ça qu'il faut aller voir, quoi. Il est magnifique, puis les images, elles sont sublimes.
Ah, elles sont sublimes. Ouais. Scène de la tempête, des marécages avec les mecs sur les échasses.
Ouais, et puis j'aimerais que tu nous parles, s'il te plaît, de la version noir et blanc.
Parce que c'est vrai que dans la sortie Blu-ray, ils ont mis aussi une version en noir et blanc qui est parfaite. Qui redonne une seconde lecture au film.
Ah oui, clairement.
Mais c'est le même film en noir et blanc?
Ouais. Mais et tu vois, je vais dire une chose, ça donne un truc en plus.
Ouais.
C'est dingue.
Ouais, ça donne du peps, c'est vraiment génial. La photo est parfaite, l'étonnage est génial. Et tu te dis qu'au final, c'est presque prévu pour, quoi. Du moins, il y a du boulot derrière. Mais le film, ça donne une deuxième lecture qui est. Mais Mad Max foncé, si vous l'avez pas vu, c'est.
Et une dernière chose, moi, c'était sur Charlize Theron. Et dans ce film, elle a le crâne rasé. Elle a la suie sur le front. Elle a un bras en moins. Mais elle reste magnifique.
Elle est trop classe. Mais elle surtout, elle est badass.
Elle est badass, elle est magnifique. Elle est...
C'est un bon casting, tout qui marche.
Ouais. Et Tom Hardy, exceptionnel.
Comme toujours. Ouais. Lui, tout est dans le regard.
Il est muselé pendant les 40 premières décennies. Donc,
Mais d'ailleurs, c'est Christopher Nolan qui avait dit des fois, il met masqué, c'est pas grave parce que tout est dans le regard. Dans son jeu d'acteur est dans le regard.
Dans Dunkerque, le pilote d'avion, c'est.
Ouais, c'est ça. Mais dans Batman, c'est Bane. Dans tous ses films, en fait, il y a juste ses yeux. Voilà.
Voilà. Bah, foncez voir. Il n'a pas volé ses Oscars.
Non, ça c'est.
Combien d'ailleurs?
6. Maquillage, montage,
meilleur costume,
décor.
Il a été nommé 10 fois.
Et je sais plus le dernier.
Mais c'est vrai que le dernier, Furiosa, très bien. La continuité, il est magnifique.
Ouais.
Et puis il explique tout.
C'est ça, l'apport du lore.
Mais à la limite, on aurait cru que c'était fait exprès d'avoir ressorti le Mad Max Fury Road avant Furiosa, qu'il avait déjà l'idée en tête de développer Furiosa.
C'est son bébé à lui.
Mad Max, au final, t'arrives en plein milieu du truc, tu sais pas ce qui s'est passé
avec un Chris Hemsworth. Dans son rôle,
il y a un bon personnage, le méchant est génial.
Ouais. Qu'on retrouve, dans Rush.
Nombreux méchants, même dans le dernier.
Je pense qu'il n'y a pas mieux pour conclure là-dessus. Et moi, je vous propose qu'on passe à la roulette magique pour le prochain thème.
La roulette!
En attendant, la roulette magique qui va choisir le prochain thème pour le mois de janvier, du coup. On va avoir une émission spéciale Noël.
Le
25 décembre à 18h.
Ça, c'est pas beau. Si vous avez pas de famille, si vous avez personne à voir le 25 décembre, écouter pour une émission spéciale sur les films d'honneur.
Alors, du coup, comme je l'ai dit, on va passer à la roulette magique pour le prochain thème. Et c'est Dahu qui s'en charge. Et le prochain thème sera.
Pas cinéma muet français. Biopic.
Biopic, c'est mon thème, enfin.
Biopic,
c'est mon thème, enfin.
Je suis ravi de ce thème.
Le thème est trop bien, tu verras.
De Rush.
Et bah du coup, on a notre prochain thème.
Avec la musique de Mad Max.
Et tu as choisi quoi?
Je ne connais pas le nom du morceau.
Je peux te le dire, avec mon très bel accent anglais, c'est Brothers in Arms.
Ouais, et c'est Junkie XL, je crois.
Ce n'est pas noté sur ma fiche, mais on s'écoute ça et on se dit au revoir. Des bisous.
radio.com.